Est-ce que vous êtes concerné par la politique en général?
Je ne suis pas un homme politique, non. Par contre, la politique influe sur tous les pays où il y a
Oui.
une communauté ismaélie. Elle influe sur les organisations internationales, sur le système financier international. Elle influe sur les priorités que se donnent les pays occidentaux, les pays en voie de développement. Donc, la réponse est tangentiellement oui, mais directement non.
C'est-à-dire, est-ce que vous prenez des positions? Si on veut parler plus précisément du Moyen-Orient,
oui.
Vous avez des positions claires concernant le conflit israélo-arabe, concernant Jérusalem?
Oui, oui. Non, c'est une question qui n'est pas courante dans ma vie puisque je ne suis pas engagé là. Je suis beaucoup plus engagé en Afghanistan.
Oui.
Puisqu'il y a une communauté ismaélite qui est là et dans tous les pays voisins. Bon, pour ce qui est de la situation au Moyen-Orient,
Parce qu'il n'y en a pas en Palestine?
Non.
Non, pas
non,
du tout.
Non. Bon, j'ai été étudiant en histoire, j'ai lu le Balfour Declaration, j'ai lu l'accord Sykes-Picot. Quand j'étais étudiant, il avait à peine été rendu public.
Oui.
Donc, si vous voulez, l'histoire, je la connais. Elle est terrible. Elle est terrible. Mais on a un héritage historique affreux qu'il faut résoudre.
Oui.
Il faut le résoudre. Et je crois que cette situation au Moyen-Orient reflète un problème de fond, qui est que lorsque vous laissez une situation se dégrader décennie après décennie, elle finit par devenir un problème global.
Oui.
Et il faut maintenant trouver une solution. Cette situation a duré beaucoup trop longtemps, mais beaucoup trop longtemps.
Comment est-ce que vous avez une vision précise de la paix? Comment vous la voyez? Jérusalem, pour vous, est-ce qu'elle représente une ville spéciale pour l'islam, par exemple?
Mais bien sûr, il ne peut pas en être autrement.
Oui.
Vous dire que j'ai une vision précise du statut légal de la ville de Jérusalem, non, je n'ai pas de vision précise. Vous me demanderiez la question pour l'Afghanistan, est-ce que j'ai une vision
oui.
De ce qui doit être la suite de l'Afghanistan,
oui.
Je vous dirais oui.
Oui.
Vous comprenez? Parce que je suis directement impliqué.
Mais au Moyen-Orient, non.
Pas directement.
Malgré la communauté ismaélite en Syrie.
En Syrie, mais nous sommes impliqués par la position syrienne, puisque chaque communauté fait partie du psyché national. Vous comprenez?
Oui. Bon, alors on va parler de l'Afghanistan.
Oui.
Mais avant, est-ce que vous avez. Comment expliquez-vous le djihad, en principe?
Mais comment voyez-vous le djihad?
Oui.
Quelle est la définition que vous voulez vous donner au djihad?
La guerre sainte, ce qu'on a appelé la guerre sainte, depuis l'histoire, et l'interprétation actuelle, bien sûr.
Ben, je crois d'abord qu'il y a plusieurs interprétations actuelles.
Oui.
Je ne crois pas qu'il y ait dans le monde musulman une seule définition du djihad. Ça dépend. Le mot, pour moi, est utilisé beaucoup trop souvent et dans beaucoup trop de domaines. Mais le djihad, avant tout, c'est une discipline personnelle, au départ. C'est la recherche de l'amélioration de soi-même. C'est-à-dire que c'est un effort personnel dans la vie. Ça, c'est une définition.
Ouais.
Une autre définition, c'est la guerre contre les non-croyants. Alors, il faut définir qui sont les non-croyants.
Oui.
Bon, autre définition. Troisième définition, c'est la guerre contre ceux qui s'attaquent à une communauté musulmane, qui victimisent une communauté musulmane. Autre définition. Donc, si vous voulez, dans la notion de djihad, je crois qu'il faut faire très attention de ne pas donner à ce mot une seule interprétation. Ce mot est utilisé dans différentes situations de notre monde aujourd'hui. Il faut bien le dire.
Oui, les non-croyants pour vous, c'est qui?
Ben, si je retourne très en arrière, je pense qu'il faut dire que les gens du livre, Al-Kitab, ce sont les monothées.
Oui.
Ça, c'est la définition de base. Voilà. Bon, aujourd'hui, je crois qu'en islam, il faut admettre que dans la vie sociale, nous sommes obligés et nous devons accepter la notion d'une responsabilité sociale élargie. C'est celle que j'interprète. Et je la crois vraie. Je dirais plus que cela, je crois que dans l'histoire musulmane, lorsque des situations se sont présentées de ce genre-là, souvent, la période islamique en question a été la plus belle. C'est très étrange, c'est un phénomène de l'histoire, mais c'est une réalité.
Oui. Elle était plus belle pour les musulmans, non?
Mais oui, c'est ce que je veux dire.
Voilà.
Parce que c'est l'humanisme de l'islam qui a fait que on a construit une société où tout le monde était heureux de vivre dans cette société. Est-ce que c'est pas ça le souhait que nous devons avoir?
Oui, mais quand vous dites non-croyants et vous parlez des gens du livre ou des monothéistes, bon, il y a eu le jihad en Afghanistan contre le régime soviétique, donc contre le communisme. Donc, des gens, en principe,
ce qu'on appelle non-croyants.
Donc, vous interprétez ce jihad comme bon pour la cause musulmane?
Le jihad de l'Afghanistan?
Oui.
Écoutez, moi, il est certain que je ne pouvais pas être en faveur d'une invasion, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs.
Oui.
Voyez-vous, la notion de l'invasion est une notion qui, pour moi, est inacceptable. Avec le recul du temps, si vous demandez aux Russes d'aujourd'hui, ils vous diraient, on n'aurait jamais dû le faire.
Oui.
Par contre, quand vous me parlez d'une jihad entre musulmans, j'ai beaucoup de difficultés à accepter ça. Beaucoup.
Oui. Et maintenant, s'il va y avoir une invasion américaine pour l'Afghanistan, comment vous allez voir tout ça?
Elle est déjà en place.
Voilà.
Elle est déjà en place.
Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que, malheureusement, le monde civilisé n'a pas réussi à changer les normes sociales, éthiques, humaines qu'on a voulu imposer à l'Afghanistan par le mouvement taliban. Et là, je veux être clair, tout le monde qui a essayé de changer cela, musulmans et non-musulmans, ils ont tous failli. On ne peut pas dire que c'est une faillite unilatérale d'un monde musulman ou d'un monde chrétien. C'est le monde civilisé, comme je l'entends, qui n'a pas réussi à changer cette situation. Alors aujourd'hui, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on souhaite pour l'Afghanistan? Il faut voir cette situation de conflit, mais à quoi elle va porter? Et c'est là où je me suis engagé, et je m'engage tous les jours, pour essayer de contribuer à la visualisation d'un Afghanistan pacifié, pluraliste, moderne, stable, et où la démographie originale, enfin la démographie d'avant le conflit, puisse se rétablir. Il y a quand même 4 millions de réfugiés qu'il faut rapatrier. Donc, si vous voulez, le problème que je me pose, c'est cette situation militaire, elle est là. Mais le plus important, c'est comment est-ce qu'on reconstruit l'Afghanistan. S'il fallait passer par cette tragédie et que la population afghane se trouve dans la situation où elle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut prier pour cette population? Et c'est là où je crois que, si vous voulez, le Ummah peut arriver à un accord et doit contribuer à cette visualisation.
Donc vous êtes plutôt optimiste?
Ah non.
Puisque vous dites que c'est possible. Moi, je crois que tout le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver ou à mettre en place un gouvernement à la place des talibans. Je crois que c'est le problème des États-Unis, c'est le problème du Pakistan, d'Iran et de tout le monde.
Écoutez, je crois qu'il faut voir au-delà. Je ne suis pas optimiste parce que je n'aime pas la guerre.
Oui.
Mais nous y sommes. Je suis optimiste dans la visualisation de ce qui peut être mis en place en Afghanistan, parce que je suis convaincu qu'on peut trouver un consensus de vision de la grande majorité des Afghans et des pays voisins. Ouais. J'en suis profondément convaincu. Je pense en plus qu'il faut que cette vision de consensus soit soutenue d'une manière vigoureuse, mais vigoureuse, pour la reconstruction de l'Afghanistan. Moralement, il est intolérable que les Afghans continuent encore des décennies d'années à vivre comme ça. C'est pas possible.
À vivre comme ça, c'est-à-dire sous le régime des talibans?
Non, à
ou
vivre
sous
en guerre civile.
En guerre civile.
Depuis l'invasion ouais. russe jusqu'à la situation de guerre interne, jusqu'à la position des talibans. Pensez que les Afghanistans, ça fait des années qu'ils vivent dans des situations de conflit.
Oui. Vous avez visité l'Alliance du Nord il y a 2 ans.
Oui.
Est-ce que c'était une position politique?
Non, c'était une position géographique. Je vais vous dire pourquoi.
Oui.
Parce que la zone du Tadjikistan au nord
oui.
est massivement ismaïlie. La zone juste au sud est massivement ismaïlie. Donc, si vous voulez, si vous prenez le Gorno-Badakhshan, qui est la zone est du Tadjikistan, et vous prenez le Badakhshan afghan, c'est une ethnie commune, par la même langue.
Oui.
Grande majorité d'Ismaili. Et il fallait trouver le moyen de stabiliser cette zone-là, qui était la zone à plus haut risque. Non pas uniquement de la guerre civile, mais du fait qu'ils vivent dans un environnement terriblement difficile. 6 mois d'hiver, aucune économie importante, une agriculture complètement défaillante. En 1992, on était face à la famine au Tadjikistan. Les infrastructures nationales détruites. Pour nourrir les Tadjiks de l'Est, il fallait emmener la nourriture par le Kyrgyzstan, du Kyrgyzstan par la route vers le Tadjikistan de l'Est. Parce qu'on ne pouvait même pas faire la communication à l'intérieur du pays. Bon. Ça, c'était une situation qui était avant l'arrivée des talibans. Les talibans, c'est un phénomène assez récent, finalement.
Oui.
Vous comprenez? Donc, moi, j'avais une politique, si vous voulez, régionale, qui consistait à étudier les problèmes dans le nord-ouest du Pakistan. Grande concentration ismaïlie, l'est du Tadjikistan, le nord-est de l'Afghanistan. C'est toute une zone. Et c'est une zone qui est dominée par la montagne. Donc, même problème d'agriculture, même problème de survie, même problème d'insuffisance de capacité humaine, même phénomène d'isolation. Donc, si vous voulez, les frontières-là n'ont pas grand sens. C'est une entité. Bon. Il s'est trouvé que depuis, évidemment, quand les talibans sont arrivés là et qu'ils ont commencé à traiter tous les chiites comme s'ils étaient des hérétiques, tous les chiites ont réagi. Voilà.
Ils ont quitté, donc. Ou quelle est la situation d'Ismaïli actuellement à Kaboul ou dans les régions sous le régime taliban?
Bien, comme tous les chiites, on s'est replié. Il s'est trouvé que 2 provinces de Tadjikistan n'ont jamais été conquises par les talibans, c'est le Panjshir et le Badakhshan. Voilà. Mais j'ai une grande population de réfugiés au Pakistan, j'ai des réfugiés en Iran, au Tadjikistan. Et donc, si vous voulez, les Ismaïlis d'Afghanistan font partie de communautés réfugiées, mais ils ne sont pas tous partis, il ne faut pas se tromper là-dessus.
Ouais. Vous êtes d'accord avec le monde occidental et les États-Unis en particulier qu'il faut en finir avec les talibans?
Écoutez, il est difficile de voir une autre solution.
Ouais.
Ça, c'est ça mon problème. Je ne vois pas d'autre solution. Et je ne crois pas qu'il y en ait, honnêtement. Et je vais vous dire pourquoi. On s'est penché sur cette question depuis assez longtemps maintenant. Tout le monde s'y est penché, pas que moi. La Ligue arabe,
oui.
Et d'autres, je ne les nomme pas tous, tout le monde s'est penché là-dessus. Je crois que la question de fond, c'est justement la question de l'avenir de l'Afghanistan. Il faut poser la question au monde musulman en lui disant « Quelle est votre visualisation de l'avenir de l'Afghanistan que vous souhaitez ?» Et je pense que si on posait cette question au monde musulman, il dirait « Nous voulons un pays différent que celui qu'ont voulu imposer les talibans. »
Oui.
Voilà.
Mais on n'a pas posé la question encore au monde musulman, peut-être.
Comment on le ferait ?
Oui.
Je vous dirais,
il y a plusieurs façons, quand même.
Oui. Je vous dirais, c'est allé vite. Même jusqu'à il y a 6 mois, j'ai posé la question. J'ai posé la question.
Oui.
À beaucoup de chefs d'État, chefs de gouvernement du monde musulman, d'Asie centrale, de l'Europe de l'Ouest. Et vous savez quelle était la réponse ?
Non.
Aucune. Il n'y avait pas de réponse.
Un point d'interrogation.
Je n'ai pas entendu de qui que ce soit.
Même l'Iran ?
L'Iran, eux-mêmes, ils avaient du mal à articuler leur philosophie sur une situation afghane qui changeait tout le temps. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile.
Oui. Vous pensez que les États-Unis ont d'autres buts que le régime taliban et Oussama Ben Laden dans l'Asie centrale ? Il y a une autre dimension de la guerre contre le terrorisme ?
Je souhaiterais que non. Et je crois qu'il y a consensus autour de cette vision de l'avenir, oui, de l'Afghanistan. Et ce consensus a été construit avec la Russie, les autres pays voisins de l'Afghanistan. Et je crois qu'aujourd'hui, le débat, c'est quel est le gouvernement qui va suivre.
Bien sûr.
Deuxièmement, c'est quel est le programme de reconstruction. Et ma préoccupation, c'est ce programme de reconstruction. Parce que, et je l'ai dit dans l'interview du Monde,
oui,
les heures comptent. On a des gens qui meurent de faim. Donc on n'a pas le droit de laisser dans le temps se dessiner sur l'horizon une image plus ou moins floue de l'avenir de l'Afghanistan. On n'a pas le droit de le faire.
Oui. Vous avez toujours des relations assez proches de la Maison Blanche, parce que je sais que les Afghans, depuis Kennedy, ont été toujours très bien reçus à la Maison Blanche.
Oui,
est-ce que ça persiste avec le président Bush, par exemple ?
Ça persiste dans le sens que j'ai fait mon éducation universitaire aux États-Unis.
Oui.
Donc, nécessairement, j'ai été éduqué avec des personnes qui ont maintenant des rôles importants aux États-Unis. Mais ce n'est pas du tout un pays privilégié dans ma vie. Je dirais que l'Europe, dans l'avenir de la communauté ismaïlie, est tout aussi important que les États-Unis ou, je dirais, l'Amérique du Nord. Pour différentes raisons. Je vous donne un exemple.
Oui.
Le Canada. Le Canada, pour nous, est un pays d'une très, très grande importance. Pourquoi ? Parce que le Canada a su construire, dans une économie moderne, une société pluraliste.
Oui.
Eh bien, voilà.
Les États-Unis, non ?
Beaucoup moins.
Beaucoup moins.
Beaucoup moins.
Oui. C'est-à-dire, vous avez pu contacter le président Bush depuis le 11 septembre.
Si, disons qu'il y a des contacts, je ne veux pas dire avec qui ou comment, mais
oui,
il y a des contacts avec tous les États qui sont concernés par l'Afghanistan, puisqu'ils savent qu'il y a une communauté ismaélienne importante en Afghanistan. Ils savent que nous avons un réseau d'organisations humanitaires en Afghanistan. Ils savent que nous avons des réseaux de développement au Pakistan, au Tadjikistan. Et donc, nous sommes en mesure, j'espère, de contribuer d'une manière significative à la reconstruction de l'Afghanistan. Donc, par la force des choses, nous sommes parmi ceux qui vont devoir contribuer. Et nous le souhaitons.
Donc, s'il va y avoir, par exemple, un congrès ou une réflexion sur l'avenir de l'Afghanistan, vous allez être apparemment reçu.
Moi, je commence par une autre façon. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est d'abord entendre ce que les Afghans eux-mêmes disent, province par province. Je ne sais pas construire un programme pour qui que ce soit, sans écouter d'abord. Et vous imaginez que dans les provinces où il y a une production agricole qui va être détruite, il faut bien le dire,
ouais.
La drogue, et d'autres provinces qui sont dans la haute montagne, ou des provinces qui sont dominées par une ville, le programme de reconstruction va être différent. Donc il faut avoir l'humilité intellectuelle pour aller entendre, écouter que ces gens-là s'expriment dans chaque province.
Oui.
Et c'est de là que nous construirons, je crois, un programme commun. Et puis il faudra se diviser entre nous, tous ceux qui veulent travailler ensemble, pour dire je m'occupe de telle et telle activité ou je prends des partenaires pour telle et telle activité. Et il faut reconstruire le pays.
Est-ce que vous êtes en contact actuellement avec l'ONU, c'est-à-dire Al-Ardal Ibrahim, qui est le délégué spécial pour la région? Vous êtes en contact avec l'Alliance du Nord, avec le roi?
Écoutez,
Mohamed,
je vous réponds.
Oui.
Franchement,
oui.
Je suis en contact avec tous ceux qui doivent être concernés par l'Afghanistan. Tous. Et ça depuis longtemps.
Vous êtes reçu dans le monde occidental comme chef suprême des Ismaélis ou comme prince?
Ça, je ne peux pas me mettre dans la tête des gens qui me reçoivent. Je ne sais pas comment répondre à cela.
Vous ne savez pas?
Non, je crois que chaque pays réagit d'une manière un peu différente. Et bon, ça, c'est la vie.
Votre Altesse, à la fin de cet entretien, si on veut résumer toute votre mission sur Terre, comment vous pouvez la dire en deux mots? Premièrement, est-ce que vous prêchez votre religion là où vous êtes? Ou vous n'avez pas de but précis concernant cette mission religieuse?
Mais bien sûr.
Vous la prêchez?
Bien sûr. Et avec d'autres, pas seulement dans la communauté ismaélienne. Nous avons des discussions continues avec différentes religions, différentes personnalités politiques, académiques, etc. Bien sûr.
Oui.
Parce que le problème de fond, c'est le problème de l'éthique dans la société moderne. Et ce problème de l'éthique dans la société moderne, ce n'est pas un problème musulman. C'est un problème du monde entier.
Oui.
Et c'est là où je crois que, j'espère, que je pourrais contribuer à la réflexion sur cette question.
Oui. Et quel est votre projet principal de votre vie, à votre avis?
Je dirais qu'il y en a plusieurs. Bon, évidemment, je souhaite que la communauté ismaélie vive en paix et dans des conditions de qualité de vie acceptables. Je souhaite que les institutions se renouvellent. J'ai le plus grand respect pour le temps. Et je crois qu'il faut l'anticiper si on peut et construire en avance du temps. Parce que sinon, on est pris de court. Je souhaite qu'il y ait une base éthique réelle, vécue, pas seulement discutée, mais vécue dans la société moderne. Parce que sans cela, que ce soit la société musulmane ou la société chrétienne, quelle qu'elle soit, je vois une société sans direction. Et ça me préoccupe. Donc voilà un peu les questions que je me pose.
Merci, Votre Altesse. je vous remercie énormément.
Non, mais je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à vos questions.